Nous sommes toujours avec notre invitée Elisa Lanzi, économiste à la direction environnement de l'OCDE, co-auteur d'un rapport sur les conséquences économiques du changement climatique. Conséquences que nous avons détaillées ou projetées, en tout cas dans une première partie. Elisa Lanzi, votre rapport doit servir aussi à alerter les politiques, à leur inspirer peut-être des actions publiques. D'ailleurs, qui vous l'a demandé, cette étude? Qui sert-elle en quelque sorte?
Donc, tous nos travaux sont faits, disons, par des membres des pays membres de l'OCDE. Et ces rapports sont partis d'un projet plus grand qui regarde les coûts économiques des impacts en général sur l'environnement, pas seulement le changement climatique, mais on a travaillé aussi sur la pollution de l'air et sur les liens entre l'utilisation d'eau, l'énergie et du territoire. Et après, on a étudié aussi, mais pas de manière quantitative parce que c'était pas possible, les impacts sur la biodiversité.
Alors, si les arguments écologiques ne sont pas toujours entendus par les responsables politiques, on peut peut-être leur faire un peu peur avec des arguments économiques. Si on ne fait rien, quel impact d'abord sur l'économie mondiale, dont l'indicateur qu'on a l'habitude de citer en premier, indicateur très froid par ailleurs, c'est le PIB, la croissance?
Tout à fait. Donc c'est exactement ça l'idée. C'était disons motiver plus d'actions politiques par les gouvernements avec des arguments économiques, vu que justement ces environnementaux ne marchent toujours pas très bien. Mais c'était vraiment à la demande des pays. Donc il y a une conscience croissante de l'importance des impacts négatifs sur l'environnement, sur le changement climatique. Qui peuvent avoir justement des effets sur l'économie.
Alors qu'est-ce que vous leur dites, par exemple, le PIB, la croissance, comment elles évoluent, vos courbes par rapport à ça?
Il y a des effets qui peuvent être négatifs au niveau du PIB. Donc normalement, ça reste sur des pourcentages qui ne sont pas énormes à un horizon de 2060. Donc environ 2-3% du PIB pour les changements climatiques, mais aussi pour la pollution de l'air. Par contre, pour les changements climatiques et pour la pollution de l'air, on a aussi calculé des impacts économiques par rapport à la mortalité prématurée et aussi la morbidité, donc tout ce qui a à voir avec les effets négatifs liés aux maladies, aussi au niveau du bien-être en général. Donc quand on regarde ces types de coûts, ils sont encore plus importants que ce qu'on peut regarder en regardant juste au PIB. Donc ça, c'est très important parce que justement, il y a un effet vraiment sur les marchés, sur l'économie, mais il y a des coûts économiques liés vraiment au bien-être des gens qui sont très importants.
Oui, une étude scientifique parue dans Nature l'année dernière concluait qu'actuellement, près de 30% de la population, on parle pas que de bien-être puisque 30% de la population mondiale est exposée au moins 20 jours par an à des températures et de l'humidité au-delà du seuil létal. Et dans des pays, même dans l'hémisphère nord, par exemple, ces parlementaires britanniques qui alertent en disant que la chaleur pourrait causer 7000 morts par an d'ici 2050 si le gouvernement n'adapte pas les infrastructures du pays. Eux aussi, ils prennent l'argument économique pour faire valoir leur cause ou la question de la santé publique réussit quand même à alerter les pouvoirs publics?
Disons que les deux sont importantes, mais que quand on rajoute un argument économique, on peut vraiment faire voir que mettre en place des politiques n'a pas que des coûts, a vraiment des gros bénéfices et donc ça motive encore plus à la mise en place des politiques.
Alors vous écrivez qu'une mise en place rapide et immédiate des mesures d'atténuation ambitieuses peut aider les économies à diviser par deux les conséquences négatives sur la croissance d'ici à 2060. Et d'ailleurs, ça paraît toujours un petit peu étrange de réussir à dire que ça peut représenter donc une différence de plus d'un point de pourcentage du PIB à la fin du siècle, sans dire par quelle politique et par quelle mesure on y parvient. Comment vous parvenez à ces chiffres?
Alors, donc, il faut dire que ceci est une étude des modélisations. Donc, nous, on met en place dans le modèle des politiques assez simples, je vais dire, mais dans le sens que dans les modélisations, elles sont, nous, on met, disons, une taxe carbone au niveau mondial ou on met en place un marché de carbone au niveau mondial. Ces rapports étaient beaucoup plus sur les coûts de l'inaction, donc on n'a pas été dans les détails des politiques. En revanche, dans ce moment, ce qu'on voit, c'est que chaque pays a donné target,
leur cible, leur objectif.
Cible, objectif au niveau de la réduction des émissions. Et c'est à chaque pays de décider comment il veut mettre en place leur politique. Donc il y a des pays qui préfèrent mettre en place des taxes, d'autres participent au marché des carbones, mais d'autres aussi préfèrent investir beaucoup plus dans la technologie, dans l'efficacité énergétique, etc. Donc à chaque pays, c'est de voir comment il veut mettre en place les choses. Et il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de politiques qui sont intéressantes pour la réduction des émissions à effet de serre, des gaz à effet de serre, qui ne sont pas forcément liées au changement climatique. Donc aussi, par exemple, dans ces moments, nous, on travaille sur l'économie circulaire, il y a beaucoup de politiques au niveau de l'utilisation des ressources qui peuvent avoir aussi des effets positifs sur la réduction des gaz à effet de serre.
Par exemple, sur l'économie locale, ces régions, par exemple, à l'initiative du WWF France qui signe des sortes de COP21 locales, vous travaillez sur des initiatives locales particulières ?
Non, on travaille au niveau beaucoup plus agrégé parce qu'on veut vraiment avoir une vision plus globale au niveau surtout des pays de l'OCDE. Cela dit, c'est très important de regarder ce qui est fait aussi au niveau local pour nous, pour avoir des idées des types de politiques qu'on peut mettre en place dans le modèle et donc étudier. Alors, un exemple de ces initiatives locales, ça peut être rien que les campagnes d'information. Comment est-ce que ça peut changer après les comportements des gens et donc changer pour nous les projections dans les futurs aussi au niveau de la production sectorielle, etc.
Il y a des collectivités locales qui aussi sont targue d'être plus vertueuse, par exemple pour économiser l'eau. Je pense au parc de Nancy où l'arrosage est très maîtrisé, au goutte à goutte. On peut multiplier comme ça les exemples d'initiatives locales. Est-ce que les aléas climatiques vont s'immiscer de plus en plus dans les arbitrages budgétaires des politiques locales ?
Idéalement, oui. Et c'est pas notre équipe, mais à l'OCDE, on travaille aussi sur ces sujets. Il y a beaucoup de gens beaucoup de mes collègues qui essaient de travailler sur aussi la finance au changement climatique. Donc, comment incentiver les communautés locales, mais aussi les secteurs privés qui doivent bien sûr s'engager pour pouvoir contribuer à un problème qui va bien au-delà juste des politiques climatiques mises en place par les gouvernements.
Donc les entreprises privées, mais aussi les assurances. Et on a souvent accusé l'État de se déresponsabiliser en s'en remettant aux assurances plutôt que de travailler à ce que chacun, par exemple, produise de façon plus responsable, sache intégrer les aléas climatiques dans la gestion de leur travail, de leur vie économique.
Tout à fait. Je pense que les problèmes sont grands au point qu'il faut s'investir sur plusieurs plusieurs manières. Donc, bien sûr, les gouvernements doivent mettre en place des politiques, mais les secteurs privés doivent participer. Et puis, il y a une partie de responsabilité plus personnelle. On pense que si tous ont contribué un petit peu dans notre comportement à réduire les changements climatiques, on pourrait y arriver beaucoup plus facilement.
Mais comment on peut convaincre une entreprise de s'y mettre, par exemple ? Ça peut, elle, à son échelle, lui faire faire des économies ? Forcément pas à court terme, en tout cas.
Alors, il y a deux aspects du comportement, disons, du secteur privé. Alors, d'un côté, il y a tout ce qui est par rapport à l'adaptation au changement climatique. Donc, il y a des entreprises qui sont forcées par rapport aux risques qui sont posés par le changement climatique à changer leur comportement. Ça, on peut le voir facilement dans la production d'énergie, comme on disait avant. Donc, il y a des risques qui affectent la production des renouvelables, du nucléaire. Et donc, par exemple, EDF en France a mis en place un bon groupe de recherches sur aussi les impacts du changement climatique sur la production d'énergie. On voit déjà qu'ils considèrent tous ces aspects dans leur travail. Un autre exemple, c'est tout ce qui est les supermarchés, d'où est-ce qu'ils prennent leurs produits. Ça aussi, ça, c'est au niveau d'adaptation au changement climatique. Après, il y a l'engagement du secteur privé pour l'atténuation au changement climatique. Et ça, on peut le voir aussi dans les banques, où est-ce qu'ils investissent leurs les capitaux. Donc, Une chose qui serait importante, c'est que les investissements voient plus, ils se dirigent plutôt vers des énergies vertes, par exemple, qui est l'exploitation du charbon, par exemple.
Voilà, et toujours ce débat aussi sur les énergies vertes qui ne sont pas toujours si vertes avec les éoliennes, par exemple, qui nécessitent d'aller chercher des terres rares, des matériaux rares dans les pays. Enfin, en tout cas, il y a tellement d'inconnus pour ce sujet-là que c'est un travail énorme que d'essayer de se projeter sur un horizon à moyen terme. Vous le disiez, les politiques d'atténuation ne réussiront pas si elles ne sont pas mises en œuvre très rapidement à réduire les impacts négatifs du changement climatique. Il faut aussi donc s'adapter. Et l'adaptation, ça coûte cher.
Oui, bien sûr.
Dans un premier temps.
Un exemple typique sur l'adaptation que j'aime bien en France, c'est la France était donc bien affectée par les tempêtes. Et ça a eu un effet aussi, par exemple, sur la transmission de l'énergie. Et beaucoup de gens ont été coupés d'énergie pendant plusieurs jours, etc. Donc, une chose que la France a fait, c'est l'enfouissement des câbles électriques qui a pu donc réduire les impacts des tempêtes. Et ça a vachement réduit les impacts. Par exemple, la région parisienne la plupart de la région parisienne a déjà fait ça. Donc ça, c'est juste un petit exemple. Il y a beaucoup qu'on peut faire pour s'adapter au changement climatique, tout sachant par contre qu'il y a des grosses incertitudes. Donc il y a des choses pour lesquelles la mise en place d'adaptation n'est pas si facile.
Alors aujourd'hui, Elisa Lanzi, si vous deviez améliorer votre rapport, le compléter, le préciser, qu'est-ce qui vous reste à faire pour avoir une vision la plus précise possible de la situation ?
Et ce qui est intéressant dans cette littérature, disons, c'est qu'il y a de plus en plus des données et d'études qu'on fait au niveau local sur les différents impacts du changement climatique. Donc bien sûr, on pourrait améliorer chaque fois inclure plus d'impact. Effectivement, ce qu'on va trouver, c'est simplement que les impacts du changement climatique vont probablement être un peu plus gros. Disons que les conclusions générales vont probablement pas changer. Donc, néanmoins, on trouve qu'il y a de plus en plus d'impacts, comment on est affecté par les changements climatiques. Donc ça, c'est bien sûr intéressant.
Merci Elisa Lanzi d'avoir été avec nous. Votre rapport sur les conséquences économiques du changement climatique est en ligne sur le site de l'OCDE. Donc merci d'avoir été avec nous. Et j'ajoute que du grain à moudre d'été ce soir sera consacré aux villes et l'adaptation des villes à la canicule. Mélanie Chalandon recevra notamment le philosophe et urbaniste Thierry Paco et Amandine Crambe, ingénieur urbaniste à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Ce sera donc tout à l'heure à 8h15.